Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Les plus grandes entreprises africaines se portent plutôt bien malgré un contexte de turbulence. En tout cas, leurs activités sont en hausse avec un chiffre d'affaires record. Nous en parlons longuement au cours de cette émission avec notre invité. Il s'agit de Julien Wagner, journaliste à Jeune Afrique et l'un des auteurs du classement annuel des 500 premières entreprises publiées par notre confrère basé à Paris. Le Sénégal vote ce dimanche 24 février pour élire son cinquième président. Quels sont les enjeux économiques de cette élection et surtout comment les Sénégalais jugent ces programmes des candidats? Vous aurez les détails dans le Zoom Express. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Avant de développer ces titres, prenons la direction de la Côte d'Ivoire. L'agence de notation financière Moody's a relevé la note de crédit de la Côte d'Ivoire de perspective positive à stable. La Côte d'Ivoire se positionne comme le deuxième meilleur crédit d'Afrique subsaharienne, derrière le Botswana et aux côtés de l'Afrique du Sud. Direction Abidjan pour en savoir plus sur cette notation avec notre correspondant Max Soubi.
La Côte d'Ivoire sort progressivement du grade spéculatif à celui de qualité moyenne inférieure avec cette nouvelle note qui renforce également la qualité de la signature de la première puissance d'Afrique de l'Ouest francophone. Plusieurs facteurs ont contribué à fonder la décision de l'agence Moody's, notamment la résilience de l'économie et les fortes perspectives de croissance près de 7% d'ici 2026 et marquées par une diversification grandissante, notamment sur les secteurs agroalimentaires et pétroliers. Célestin Kouala, DG du logement et de la construction de Côte d'Ivoire.
Pour les bailleurs internationaux, pour les partenaires au développement, il est bon quand même d'être sûr, n'est-ce pas, que le niveau de risque d'un État, avant de lui faire par exemple des prêts, est relativement réduit. Donc cette notation montre une fois de plus que nous avons la capacité de respecter nos engagements. Mais cette notation vient confirmer également le fait que la Côte d'Ivoire est effectivement, n'est-ce pas, la première puissance économique de la sous-région. Et cela a raison du fait que le président Alassane Ouattara a une très très grande capacité d'anticipation sur l'avancement de l'économie mondiale.
Les analystes de Moody's relèvent par ailleurs les progrès réalisés en matière de consolidation budgétaire et la crédibilité des mesures prévues en vue de l'atteinte de réduire le déficit fiscal de 3% du PIB d'ici 2026. Selon Moody's, la Côte d'Ivoire a atteint aussi ce niveau grâce à une amélioration de la gouvernance et au renforcement du cadre institutionnel reflété par l'amélioration des principaux indicateurs internationaux comme la Banque mondiale. Célestin Kouala.
Bon niveau de réduction également de la pauvreté, n'est-ce pas, à travers la mise en œuvre du PND, la bonne mise en œuvre, le bon taux d'exécution du PND 2021-2025, eh bien on a abouti à un abaissement, n'est-ce pas, du taux de pauvreté de la population ivoirienne. Tout cela constitue des actions fortes qui font que cette économie ivoirienne aujourd'hui est une économie forte. C'est quand même une inflation qui a été contenue, n'est-ce pas, à 4,4%, mais également, un déficit budgétaire qui a été réduit à pratiquement 5,2% en 2023.
Il est à noter que la Côte d'Ivoire a rouvert en début d'année les marchés obligataires pour les pays d'Afrique subsaharienne après une absence de 2 ans. Max Soubi pour Mehdi 1, Abidjan.
Merci à vous, Max Soubi, correspondant de Mehdi 1 à Abidjan.
Zoom Express.
Direction le Sénégal, où l'on vote ce dimanche 24 mars pour élire le cinquième président de ce pays ouest-africain. Quels sont les enjeux économiques de cette élection Et surtout, comment les Sénégalais jugent les programmes des candidats? Allons donc à Dakar écouter ces quelques réactions.
Le Sénégal est un pays qui est composé majoritairement de jeunes. Seuls 15% de la population a moins de 35 ans. Donc la question de l'économie, la question de l'emploi, la question de création d'industrie, ce sont des questions aussi qui ont été abordées dans le cadre de cette élection présidentielle.
Certains candidats essayent d'innover. Certains candidats essayent de... par exemple, pour la première fois aujourd'hui, on voit des candidats écrire des ouvrages. On peut citer Boubacar Camara, on peut citer Tcherno Alassane Sall, même Mamboy Diaw, etc. Ces candidats-là ont pris peut-être le temps de réfléchir et de confiner leurs idées dans des ouvrages. Je pense que c'est une très bonne chose parce que les ouvrages aussi résistent au temps et s'invitent à la postérité. À côté aussi, il y a des candidats qu'on n'attendait pas. Et aujourd'hui, qui sont en train d'émerger et qui veulent proposer d'autres choses et qui disent aussi qu'ils ne sont pas foncièrement des politiciens classiques.
Et nous restons toujours au Sénégal pour avoir un aperçu général sur le marché de l'économie sénégalaise, son potentiel et ses perspectives de développement, ainsi que les opportunités qu'elle offre aux investisseurs. Écoutons à ce propos l'analyse de Moustapha El-Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique.
Le Sénégal est un pays qui est situé à la pointe la plus occidentale du continent africain, notre continent. Il est également au confluent de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques, ce qui lui donne une position vraiment très très stratégique géographiquement. Et il constitue de ce fait un important carrefour en fait, des grandes routes maritimes et des grandes routes aériennes également. Le Sénégal est un pays qui est très très proche du royaume du Maroc et il représente en termes de population et de superficie environ la moitié du Maroc. Donc, il y a environ 16 millions d'habitants pour une superficie d'environ 200 000 m². En termes d'économie, le Sénégal est assez bien placé. Il est considéré comme étant la deuxième économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Et également, il se positionne à la quatrième place de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Donc, il occupe en fait une place économique importante au sein de notre continent.
Une économie qui ne manque pas d'atouts malgré l'impact de la crise du Covid-19, des atouts que nous présente Moustapha El-Bouri, le directeur général du cabinet Best Afrique, qui revient aussi sur les opportunités de développement de la relation entre le Maroc et le Sénégal.
Concernant les atouts du Sénégal, bon, ils sont assez nombreux, je vais vous en citer quelques-uns. L'un des plus importants pour moi, c'est une population qui est très très jeune. En effet, près de 50% de la population a moins de 20 ans. Donc à ceci s'ajoutent des infrastructures de transport et télécommunications qui sont de très très bonne qualité. Et en plus de ça, qui sont en constant développement. Récemment, une ligne de TER a été lancée. Donc ce qui va vraiment améliorer la mobilité intérieure du Sénégal. Il y a en effet, un environnement favorable aux affaires. Les investisseurs, je pense, qui peuvent vraiment s'appuyer sur les structures d'appui et de promotion performantes, appuyées également par des services bancaires et financiers de première ou de classe mondiale, ce qui est très, très important. L'économie sénégalaise, elle repose principalement sur le secteur de l'agriculture, qui occupe un peu plus de 60% de la population active. Donc, ce qui est très important, c'est une part importante de l'économie sénégalaise. À ceci s'ajoutent de nombreux autres secteurs, pour en citer quelques-uns, les mines, le pétrole et le gaz, les produits de la mer, la santé ou encore le secteur des infrastructures de la construction. Tous ces secteurs réunis offrent de multiples opportunités d'investissement qui s'avèrent être très 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 intéressantes. Si je devais citer quelques cultures de rente, les deux qui me viennent à l'esprit, qui sont d'après moi les plus importantes au Sénégal, c'est les cultures du coton et de l'arachide. En effet, le coton du Sénégal est reconnu comme étant un produit d'excellente qualité. Il a une renommée internationale. En ce qui concerne l'arachide, le Sénégal est le troisième producteur d'arachide en Afrique. Il produit un peu plus d'1,5 million de tonnes, dont la moitié est exportée, donc une grosse partie part à l'export. Le Sénégal est également très très bien positionné dans la production de fruits et légumes, comme les mangues, par exemple, le melon, la pastèque, l'oignon ou encore la tomate, pour en citer quelques-uns. En ce qui concerne les relations sénégalo-marocaines, c'est vrai que souvent on les qualifie d'ancestrales parce qu'elles sont très très anciennes et elles vont au-delà des simples aspects diplomatiques et économiques qu'on pourrait croire, mais elles constituent vraiment un modèle de coopération sud-sud. Au total, aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'accords en fait, entre le Maroc et le Sénégal. Et ces centaines d'accords, ils couvrent plus d'une dizaine de secteurs clés. L'agroalimentaire est un levier très très important de développement entre le Maroc et le Sénégal. À titre d'exemple, si je devais en citer, si je vais en citer un, je citerai le fait que les producteurs sénégalais de fruits et légumes, ils perdent aujourd'hui près de 70% de leur production. Ceci, c'est dû en fait à quoi? C'est dû à une mauvaise conservation. C'est là que ça révèle un potentiel important pour le savoir-faire marocain en termes de transformation de produits et de logistique. Je pense très sincèrement que l'expertise du Maroc dans le domaine de l'agribusiness, elle ouvre de très belles perspectives de collaboration avec son pays frère qui est le Sénégal.
Merci à vous, Mustapha El Bouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les investissements et les implantations dans les économies africaines.
Coémergence, l'invité.
Je vous le disais en titre, les plus grandes entreprises africaines se portent plutôt bien, en tout cas vu le contexte actuel marqué par des turbulences et surtout au regard de leur chiffre d'affaires record réalisé en 2023. Il a atteint 760 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 14%. C'est ce que révèle le classement 2024 du top 500 des plus grandes entreprises africaines. Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Julien Wagner. Il est journaliste à Jeune Afrique et l'un des auteurs du classement annuel des 500 premières entreprises publiées donc par Jeune Afrique. Avec Julien Wagner, nous allons aussi parler du classement des entreprises marocaines, donc dans ce top 500 africain. Bonjour à vous, Julien Wagner, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar et bonjour à tous.
Alors, tout d'abord, que retenir de ce classement 2024 du top 500 africain?
Donc d'abord, je voudrais rappeler un aspect méthodologique pour nous permettre de comparer les chiffres d'affaires de toutes les entreprises africaines. On se base sur les chiffres 2022 et c'est comme ça qu'on peut avoir des comparaisons entre ce qui est comparable et sur une période comparable. Cette édition est absolument exceptionnelle parce que effectivement en 2022, les conditions étaient assez favorables de reprise sur le continent. Et on s'aperçoit, en cumulant les chiffres d'affaires des 500 plus grandes entreprises africaines, qu'on atteint un record tout simplement de 100, 760 milliards de dollars cumulés. C'est le montant le plus important qu'on ait jamais enregistré depuis plus de 20 ans où on fait ce classement. Ça s'explique en particulier par la flambée des prix du pétrole et du gaz qu'on a vu en 2022, notamment avec le départ du conflit en Ukraine. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans le classement avec donc d'abord près de 25 les entreprises qui sont les hydrocarbures, pétrole et gaz, qui représentent désormais 25% du chiffre d'affaires cumulé des 500. Donc, c'est énorme. Des bons exemples, on voit que dans le top 10, il y a énormément de ces entreprises. Bien sûr, la Sonatrach, qui est toujours l'entreprise nationale algérienne qui est première du classement, comme toujours. Je note que Sonatrach avait pourtant a très peu augmenté en 2022 sa production, seulement 2%, mais a quasiment doublé son chiffre d'affaires. Sonatrach représente en 2022 un tiers à elle seule du PIB algérien. Mais on a aussi d'autres entreprises, évidemment, pétrole et gaz, qui ont très bien performé, comme la nationale nigériane NNPC ou la Sonangol, société principale en Angola de pétrole.
Alors.
Au-delà des secteurs hydrocarbures, on a aussi une très bonne tenue du secteur des mines. Et ça, c'est une tendance également qu'on voit sur les dernières années, ce secteur qui prend de plus en plus d'importance. Ça se manifeste notamment un bon exemple, c'est Kamoa-Kakula. Donc, vous avez déjà parlé l'année dernière, qui est la mine de cuivre développée par Ivanhoe Mines. Cette mine est rentrée il y a 2 ans dans notre classement. Elle est déjà aujourd'hui, cette année, 75e. Elle a fait plus 158% de chiffre d'affaires, c'est une mine de cuivre, et qu'elle devrait être dans le top 3 des mines de cuivre au monde très rapidement.
En tout cas, c'est un, comment je vais le dire, un microscope assez intéressant, en tout cas, le regard que vous portez sur l'évolution de ces bilans. Donc, ces bilans prennent en compte les chiffres réalisés en 2022.
Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aussi on retrouve des pays qui sous-performent en 2022, notamment par exemple l'Égypte. Beaucoup d'entreprises égyptiennes ont souffert des deux dévaluations de la livre égyptienne en 2022, qui a perdu quasiment 57% de sa valeur. Et comme évidemment, toujours pour pouvoir comparer ce qui est comparable, on convertit en dollars.
Alors, qu'en est-il des entreprises marocaines ?
Alors, les entreprises marocaines, d'abord, sont extrêmement bien représentées. Elles sont évidemment il y a 55 entreprises marocaines dans notre classement cette année. Donc, c'est plus de 10% des entreprises présentes dans les 500. Je parlais de l'Algérie juste avant avec son Afrak qui représentait un tiers du PIB à elle seule de l'Algérie. Ce qui caractérise le Maroc, c'est la grande diversité des secteurs. Il n'y a pas un secteur qui domine le reste. On voit des industries, par exemple, même automobile, on voit que le groupe Renault Maroc est la deuxième plus grosse entreprise marocaine en termes de chiffre d'affaires derrière OCP. On a aussi les télécoms avec Maroc Télécom, on a l'énergie, bien sûr, avec Africa SNTC, le commerce avec la Belgique, par exemple, on a l'électricité, le transport logistique avec la RAM, d'ailleurs qui a fait une très bonne année en 2022, évidemment, puisque c'était la reprise après Covid, mais aussi Tangemed. On a de l'agro-industrie avec Cosumar qui devient d'ailleurs milliardaire en dollars en 2022. C'était quelque chose que cette entreprise avait annoncé d'ailleurs dans les colonnes de Jeune Afrique en 2018 comme une ambition, dépasser le milliard de dollars de chiffre d'affaires, ce qu'ils ont réussi à faire, notamment grâce à leur JV avec Vilmar, qui est parti depuis l'année dernière. On a aussi des secteurs comme l'informatique avec Intelsia ou le bâtiment évidemment avec Simar, Lafarge, SGTM. Donc c'est ce qui caractérise vraiment ce pays par rapport aux autres pays africains qui ont tendance à être très concentrés dans un ou deux secteurs. C'est la diversité des secteurs et ça c'est et aussi la progression du Maroc en général dans le classement.
Donc on retiendra diversité des secteurs représentés, mais aussi les entreprises marocaines représentent 10% de ce. Alors j'ai parlé de chiffre d'affaires ou du nombre d'entreprises classées.
Alors, c'est 12% des entreprises classées.
10% des entreprises classées.
Notamment, et la première d'entre elles, peut-être que je vous devance.
Ben, effectivement, vous, comme on dit sur le continent, vous m'avez marché sur la langue. Il y a l'OCP qui réalisait des bons intéressants et qui aujourd'hui fait son entrée dans le top 10 des plus grandes entreprises africaines.
Absolument. Donc OCP est aujourd'hui un géant, tout simplement un géant du continent, puisqu'elle est neuvième, la neuvième plus grande entreprise africaine, avec en 2022 un chiffre d'affaires en dollars qui flirte avec les 11 milliards de dollars. Mais ce n'est pas seulement une entreprise qui génère énormément d'activités, c'est aussi une entreprise qui génère énormément de profits, avec 2,7 milliards de dollars de profit en 2022. Alors évidemment, elle a bénéficié de conditions, d'un contexte international qui lui a été très favorable, avec une envolée des cours du phosphate qui a été provoquée notamment par la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie. Elle a beaucoup de concurrents russes, bien sûr, mais aussi les importations chinoises qui ont été très impactées par les différents confinements. Donc un contexte très favorable pour OCP et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs. Les résultats 2023 montrent une baisse de 20% du chiffre d'affaires, mais ce ne doit pas être interprété comme une contre-performance, mais plutôt parce que 2022 a été une année exceptionnelle. C'est très intéressant d'ailleurs à voir, et on fait un article spécial dédié à OCP à ce sujet, c'est que c'est une entreprise qui, au fur et à mesure des années, a entrepris une diversification assez étonnante. Alors évidemment, ils sont passés d'une entreprise minière à une entreprise agro-industriel à travers la transformation du phosphate en engrais, mais aussi, on le voit, les Marocains le savent bien depuis quelques années, OCP devient une sorte de pieuvre avec des investissements dans l'éducation, évidemment l'université Mohamed VI Polytechnique, mais aussi l'intention de produire elle-même de l'énergie. Elle a 11 gigawatts de projets de développement de production d'énergie, notamment en particulier dans le solaire et l'éolien, mais aussi des projets dans l'hydrogène vert. Elle investit aussi dans l'hôtellerie, dans l'IA.
Donc une sorte de diversification à l'image des secteurs représentés dans ce classement. Désolé, on est pressé par le temps, mais je ne peux m'empêcher quand même de vous poser une dernière question. C'est que on sent qu'au niveau du management de ces grandes entreprises africaines, qu'il y a eu beaucoup de mouvements, pour ne pas dire beaucoup de sang neuf en fait.
Absolument, absolument, il y a eu beaucoup de sang neuf. On dénombre sur les 12 derniers mois 60 entreprises parmi les 500 qui ont changé de CEO, donc c'est quand même très important.
De président, directeur général.
Exactement, de PDG. Et ce qui est assez, notamment on venait de parler des entreprises marocaines, et ce qui est étonnant, c'est que autant on voit un grand mouvement, autant au Maroc, pas du tout. C'est-à-dire que il y a parmi ces 60 nouveaux CEO, il y a un seul nouveau CEO au parmi les entreprises marocaines présentes, donc sur les 55. C'est Cédrine Sbeg qui a remplacé Matteo Rosanigo à la tête de Ciment du Maroc. Alors, pardon, je vous dis un seul, mais il y en a deux en fait. Il y a Cédrine Sbeg et il y a aussi Karim Helab à la tête de Otto Hall. Mais ça montre une très grande stabilité au niveau de la direction dans les entreprises marocaines. Au contraire, comme vous l'avez noté, il y a eu un grand mouvement, il y a eu beaucoup de mouvements de chaises musicales parmi les grandes entreprises africaines avec 60 nouveaux CEO. Seulement 6 femmes parmi ces nouveaux CEO, ça c'est à noter, c'est un peu dommage et on le regrette. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu des mouvements aussi bien dans les entreprises qui allaient très mal, par exemple comme Eskom, la société
sud-africaine
qui est dans une situation catastrophique, qui a perdu 1,4 milliard de dollars en 2022, ou est née au Cameroun qui va très mal. Mais on voit aussi des entreprises qui vont très bien, comme Dangote Cement, par exemple, qui a un nouveau CEO à sa tête qui a été nommé l'année dernière. Et puis, il y a une troisième catégorie, c'est des entreprises qui ont besoin d'un nouveau souffle, qui vont bien, mais qui ont besoin d'innover, ou alors simplement parce qu'elles ont un management, une façon de fonctionner, où il y a énormément de changements à leur tête, sans forcément qu'on comprenne pourquoi. Et là, je reviens, par exemple, dans le cas de la Sonatrach, qui, en 10 ans, a changé 10 fois de PDG, qu'on comprenne toujours exactement pourquoi.
En tout cas, c'est des éléments intéressants qui sont donc à retrouver dans ce classement du top 500 des entreprises marocaines, des entreprises africaines plutôt. Et du côté du Maroc, on retient bien évidemment donc l'entrée de l'OCP dans le top 500. Dans le top 10, que dis-je ? Peut-être c'est l'effet Ramadan, hein, comme on le dit ici au Maroc. Merci à vous, Julien Wagner. Je rappelle que vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous êtes l'un des auteurs de ce donc, top 500 des entreprises africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence.
Merci encore, au revoir.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.